Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h48, le comparateur des programmes ce matin avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation pour la Recherche sur les Administrations et les Politiques Publiques, avec ce livre, son dernier livre, Le Vrai État de la France, publié aux éditions de l'Observatoire. On va revenir ce matin sur les impôts. Bonjour,
oui,
Agnès.
Bonjour Agnès.
Bonjour.
Oui, parce que les candidats à la présidentielle font pas mal de propositions, globalement, sur l'impôt sur le revenu. Déjà, une première question, là, si on fait le bilan, est-ce que ça a baissé depuis 2017 ?
Eh ben pas vraiment, Patrick. On a beaucoup parlé de la baisse de l'impôt sur le revenu du gouvernement de 5 milliards. Mais nous, quand on regarde les chiffres, on voit que en 2017, la recette d'impôt sur le revenu, c'était 73 milliards. En 2022, ça va être plus de 82 milliards. Et en fait, par rapport à la richesse nationale, ça a pas bougé. Ça fait toujours 3,2% de la richesse nationale. Donc, il y a eu des baisses, mais il y a eu aussi des hausses. Et on a toujours cet impôt sur le revenu qui compte 5 tranches et qui reste au même poids pour les Français.
Ah oui, bon. Alors, faisons un tour d'horizon maintenant des propositions des candidats pour réformer l'impôt sur le revenu, Agnès.
Alors, la dernière proposition en date, c'est celle d'Emmanuel Macron qui propose, on en a parlé ces derniers jours, que les couples non mariés puissent faire une déclaration commune d'impôt sur le revenu. Alors, ça peut concerner à peu près 8 millions de Français. Ce serait pas obligé, ce serait au choix. Et ça permettrait de baisser son impôt sur le revenu d'environ 12%, avec une baisse pour les Français de 2,4 milliards d'euros par an. C'est pas mal, bon. Valérie Pécresse, elle propose de diminuer le poids de l'impôt sur le revenu et d'augmenter le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile. Ça peut être aussi intéressant pour déclarer plus de personnes qui travaillent à domicile, de 6 000 à 10 000 euros, et puis de défiscaliser les pensions alimentaires. Donc ça ferait un peu moins d'un milliard d'euros de baisse pour les Français. Marine Le Pen, elle propose énormément de baisses. Exonérer d'impôt sur le revenu les jeunes actifs jusqu'à 30 ans. Donc ça fait une grosse baisse de plus de 3 milliards d'euros. Mettre en place une pleine part fiscale dès le deuxième enfant. Rétablir la demi-part des veufs et veuves. Et puis, donc, ça nous ferait plus de 7 milliards d'euros de baisse de l'impôt sur le revenu. Éric Zemmour aussi propose beaucoup de baisses. Aussi, la demi-part fiscale de retour pour veufs et veuves. Exonérer à 100% la prime de participation des salariés.
Oui.
Exonérer les intérêts d'emprunt pour l'acquisition d'une résidence principale, doubler le plafond du quotient familial, soit au total 5,6 milliards de baisses sur l'impôt sur le revenu.
Oui. Alors maintenant, ceux qui veulent monter la pression fiscale sur les revenus, parce que là on a vu donc ceux qui voulaient baisser.
Et oui, alors il y a aussi ceux qui veulent monter l'impôt sur le revenu. Et alors là, sans surprise, Jean-Luc Mélenchon veut supprimer le quotient conjugal. Alors ça, c'est une énorme hausse. Ça ferait entre 7 et 11 milliards d'euros d'impôts supplémentaires à payer sur le revenu pour les Français. Il veut passer à 14 tranches. Il veut même créer une tranche où on imposerait les gens à 90% de leurs revenus, ce qui est assez énorme. Et puis, il souhaite que les Français de l'étranger paient la différence entre l'impôt sur le revenu qu'ils paient à l'étranger et le barème auquel il serait théoriquement soumis en France. Alors, avec Jean-Luc Mélenchon, c'est au moins 16 milliards d'euros d'impôts sur le revenu en plus pour les Français. Et puis, dans la même veine, on a Yannick Jadot.
Les personnes, la tranche max, là, c'est les personnes qui touchent quand même au revenu, parce que vous ne l'avez pas précisé.
Oui. Oui, des personnes qui touchent plus de 30 000 euros par mois, 33 000 euros par mois.
Ouais.
Mais ceux-là, ils se retrouveraient avec une fiscalité supplémentaire de 5 milliards d'euros par an, ce qui est quand même gigantesque, sachant qu'ils ont déjà une taxation exceptionnelle sur le revenu autour de 4%. Et puis alors après, Yannick Jadot veut aussi supprimer le quotient conjugal, donc toujours même tarif. Il veut augmenter le nombre de tranches d'impôt sur le revenu avec une tranche maximale, là, pas à 90%, mais à 60%. Et donc, au total, ça ferait 14 ou 15 milliards d'euros de plus de fiscalité pour les Français. Bien sûr, Roussel et Hidalgo aussi font des propositions d'augmentation de la pression fiscale sur le revenu. L'impression que ça donne, c'est qu'il n'y a pas de limite pour ceux qui veulent augmenter l'impôt sur le revenu. et qu'ils n'ont pas bien compris que les ménages qui seraient surimposés comme ça à 90%, à 60%, à 70%, eh bien évidemment, ils ne resteraient pas en France. Hein, donc c'est totalement illusoire de croire qu'on aurait ces recettes fiscales en face de ces propositions-là dans un pays où on est déjà le plus taxé au monde.
Merci Agnès Verdier-Molinier.
Merci.
Comme chaque mercredi, le comparateur hein, des programmes, c'est à retrouver évidemment sur Internet et sur les réseaux sociaux. À mercredi prochain.
À mercredi.
Et on continue les grands débats ce matin avec Alexis Poulain et Elisabeth Lévy. Vous appelez 0826-300-300.
Oui, Alexis Poulain et Elisabeth Lévy. Alors, on a beaucoup parlé, tous les deux d'ailleurs, vous avez évoqué Éric Zemmour, Marine Le Pen avec vous aussi, Alexis Poulain, parce qu'il y a ce, il y a ce match en fait à droite, même si la balance semble pencher en faveur de Marine Le Pen quand on regarde les intentions de vote. Et Éric Zemmour, bah, il pousse les feux avec cette proposition, par exemple, du ministère de la Remigration. Elisabeth Lévy, vous avez dit tout à l'heure que, bon, oui, il y avait un constat, mais derrière, tout ça, c'était en fait inapplicable. Pourquoi, selon
non,
vous...
Non, c'est pas ça que j'ai dit, pardonnez-moi,
non,
Patrick.
Mais je le résume. Non, mais je le résume
non,
un
mais
peu
non, parce
sur
que
la
je
philosophie.
Ne crois pas ça.
Non, mais sur la philosophie.
Non, je ne crois
quoi.
Pas ça du tout.
Oui.
Non, non, vraiment, j'ai distingué le mot et la chose.
Oui, bah,
la
c'est
chose
ça.
Me paraît tout à fait applicable.
Oui.
Non, non, alors vraiment, non, mais c'est important non, parce mais... que j'en ai marre d'entendre qu'on peut rien faire.
Oui.
Je pense qu'on peut parfaitement expulser les délinquants étrangers, les fichiers les djihadistes, etc. On parle bien des étrangers.
Oui.
Mais j'ai dit que le mot remigration, oui. employé par Éric Zemmour, suggérait autre chose. Or, lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il voulait expulser. Ce que je veux dire, c'est que dans la pratique, je pense qu'on peut tout à fait faire ce qu'il a dit.
Oui.
Il faut le faire, en tous les cas. Je ne vois pas l'intérêt de garder dans nos prisons des délinquants étrangers. En revanche, je veux dire, en employant ce mot, si vous voulez, il y a une espèce d'ambiguïté, parce que le mot suggère autre chose. Il suggère de faire repartir, si vous voulez, des Français d'origine étrangère. C'est
non,
pas du
c'est...
tout ce que propose
oui,
Zemmour,
c'est ça,
mais
c'est ce
il
que
le
je
laisse
dire.
Entendre.
Inapplicable
voilà.
quand on, pour l'ensemble en fait, de la population qui pourrait être concernée. Vous ne m'avez pas laissé aller jusqu'au bout, Elisabeth. C'était ce que je voulais dire. Pas, bien sûr, autrement, vous l'avez dit, oui, il y a des choses qu'il faut faire.
Quoi, mais ce que pas... propose Zemmour, c'est pas... C'est... Non, c'est important,
ouais.
Patrick, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même de mauvaise foi et malveillants, qui essayent de faire croire que c'est ça qu'il a proposé. Lui, ce qu'il a proposé, c'est de faire partir des étrangers, des gens
oui.
qui n'ont pas de passeport français
oui.
et qui sont indésirables en quelque sorte.
Mmh.
Voilà. Et ça, mais j'ai dit encore une fois que le mot me semblait fait pour
oui.
susciter l'effroi. Et ça, je comprends pas très bien sa stratégie. Voilà.
Oui, oui.
Ou sa tactique.
Alexis Poulain.
Bah, ce mot, il l'utilise hein, depuis longtemps. Il parle de remigration. Après, en faire un ministère, c'est là où ça se corse, parce qu'effectivement, il y a le droit international. Il faut des accords avec les pays pour renvoyer hein, des détenus ou des gens qui sont déjà sur notre territoire. C'est extrêmement compliqué et donc ce serait alors si c'était les macronistes on appellerait ça une task force pour Éric
oui.
Zemmour c'est un ministère l'idée c'est peut-être de prendre ce problème à bras le corps parce qu'on se rappelle hein, de Gérald Darmanin qui annonçait mettre enfin en œuvre toutes les obligations de quitter le territoire français parce que elles sont non respectées c'est-à-dire que même quand la loi oblige quelqu'un à quitter le territoire français il y reste et ça c'est un vrai problème donc à un moment ce problème là on doit pas faire comme s'il existait pas. Éric Zemmour met les pieds dans le plat depuis le début de cette campagne. Il continue de le faire. Alors, est-ce que c'est une stratégie gagnante ? Ça, c'est la question, puisque politiquement, effectivement, le mot rémigration fait peur et donc Zemmour devient une sorte d'épouvantail. Hein. C'est lui l'extrême droite. Mais c'est un vrai problème, puisque même Gérald Darmanin, ministre d'Emmanuel Macron, a bien dit que c'était un problème et qu'il fallait faire respecter les OQTF. Ne serait-ce que cela ? Eh bien, cela, ce n'est même pas respecté aujourd'hui. Donc, il faut effectivement travailler. Alors, peut-être pas avec McKinsey sur ce sujet-là, mais avec l'administration française, avec le ministère de l'Intérieur, et faire en sorte qu'on arrive à une solution, parce que c'est un problème qui dure depuis des années et qui ne fait qu'empirer.
Ouais. Allez, bah, écoutez, vous avez suscité des appels, 0826-300-300, sur cette proposition, cette idée de ministère de la remigration. Vous pouvez voter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est de la provoque ? Est-ce que c'est complètement irréalisable ? Ou alors, oui, comme le dit Elisabeth, il y a les mots et la chose, donc vous pouvez nous appeler et réagir.
À
On en discutera dans quelques minutes.
8h57.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h04, Revel en campagne.
Sud Radio, présidentielle 2022.
Éric Revel est avec nous. Bonjour Éric.
Eh ben bonjour Cécile, bonjour Patrick.
Alors, dans cette bonjour campagne, il y a évidemment la guerre en Ukraine, Éric, hein, et la guerre en Ukraine avec des conséquences assez importantes. Là, sous la pression politique, Total Energy va arrêter d'acheter du pétrole russe. C'est une décision majeure pour le groupe pétrolier français.
Oui, oui. Alors Total Energy, hein, pour ceux qui n'ont pas encore en tête, c'est Total, hein, évidemment. Ben oui. Hein, c'est le groupe pétrolier français qui va arrêter donc tout achat de pétrole et de produits pétroliers russes. Alors au plus tard, hein, c'est important, hein, à la fin de l'année 2022, donc c'est pas pour tout de suite, il se donne encore un peu de temps. C'est une annonce, oui, vous avez raison, importante, même si cette décision, bon, elle prendra réellement effet en décembre 2022. C'est important parce que pour l'instant, je vous le rappelle, les pays européens ne sont pas d'accord pour décréter un embargo sur le pétrole russe. Donc Total, sous la pression, prend les devants, fait le pari aussi, hein, risqué, disent certains experts, de trouver d'autres sources d'approvisionnement, notamment du côté de l'Arabie Saoudite, membre influent de l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole. En revanche, le groupe Total souhaite conserver, écoutez bien, ses participations financières dans Novatek, par exemple, qui est le premier producteur indépendant de gaz en Russie, et dans un certain nombre de groupes d'énergie en Russie. Conserver ses participations financières.
Oui, c'est ça. Donc, ce qui veut dire qu'en conservant des participations, c'est une impression de demi-mesure, finalement.
Alors, oui, on peut le voir comme ça. L'argument alors de la direction de Total pour expliquer ce que vous appelez une demi-mesure, Patrick, cet argument s'entend aussi. Écoutez bien, hein. Que dit la direction de Total pour conserver ses participations? Elle dit céder ses participations, en fait, serait impossible en ce moment, puisque seuls les oligarques russes ou les investisseurs de ce pays pourraient reprendre ses participations, puisqu'il y a des sanctions économiques qui empêchent à d'autres investisseurs d'investir en Russie. Donc en fait, ça serait faire le jeu des oligarques russes ou des investisseurs russes que de céder ses participations. Donc, dit Total, ce serait contre-productif pour l'efficacité même des sanctions qui sont mises en place.
Oui, alors il y a beaucoup d'entreprises françaises qui occupaient des places de choix quand même en Russie, hein, avant cette guerre.
Oui, alors c'est toujours délicat, évidemment, de parler de business, de parler d'entreprise en ce moment, parce qu'à côté de l'horreur de cette guerre en Ukraine, il faut quand même le dire, il y a des réalités économiques, mais vraiment importantes, très importantes pour la France. Hein, 2-3 chiffres. Il y a plus de 500 filiales françaises qui sont implantées en Russie. 35 des 40 entreprises du fameux CAC 40, les plus grosses entreprises françaises, 35 sur 40, sont présentes en Russie. Les entreprises françaises emploient 160 000 personnes et c'est le premier employeur privé étranger, la France, en Russie. Le premier, vous prenez Renault par exemple, la Russie, c'est tout simplement son deuxième marché mondial derrière la France. Donc c'est considérable. Il y a évidemment la réalité mortifère de cette guerre en Ukraine. Et puis aussi, parce que la vie continue, les réalités économiques.
Ouais. Alors, dans cette réalité, il y a le cas à part justement du groupe Muliez, hein, qui reste sur place. C'est le groupe de beaucoup de supermarchés de Leroy Merlin. Hein.
Alors, Muliez, effectivement, c'est Auchan, c'est Decathlon, c'est Leroy Merlin. Il y a une vraie dynamique des entreprises françaises en Russie, notamment des enseignes que je viens de citer. Auchan, Decathlon, Leroy Merlin. Et tout ça, évidemment, avant le drame ukrainien. Le roi du bricolage, hein, le roi Merlin, qui a fait un pari osé à l'époque, c'est de favoriser le Made in Russia en Russie. S'est développé de manière considérable. Il a plus de 100 magasins en Russie, le roi Merlin. Pour l'instant, pour l'instant, les enseignes du groupe Mulier, Auchan, qu'on connaît évidemment bien en France, Decathlon et le roi Merlin, font le pari, même si la pression est forte, de continuer à rester et à vendre des produits en Russie.
Oui, c'est compliqué, d'où d'ailleurs des manifestations qu'il y a eu en France ces derniers jours. Et quel est le risque pour les groupes étrangers qui quittent la Russie?
Évidemment, il y a deux risques à mon sens. Le premier risque, c'est à l'heure de la reconstruction ou de la paix. Hein. Plus vite elle arrivera, mieux ce sera. Cette perte des parts de marché, parce que, évidemment, le gouvernement russe, du moment, fera pas de cadeau aux groupes qui auront déserté le marché russe. Mais il y a un autre risque qui plane, Patrick, c'est une nationalisation. La Russie en parle. Poutine en parle. Une nationalisation sur son sol, évidemment, des groupes étrangers qui quitteraient le pays. Cette menace, alors, elle n'est pas encore matérialisée, mais elle est bien réelle. Et dans l'engrenage des sanctions économiques de part et d'autre, il y en a de part et d'autre, les groupes français, il faut quand même le dire, ont beaucoup à perdre.
on le voit énormément d'incidences, quoi. Et c'est plus compliqué que ça n'y paraît quand bien souvent on dit oui, bah alors il faut des sanctions, il faut être capable de décider, voilà, d'être très ferme. Sauf que quand vous dites, moi, c'est ce qui vient de me surprendre, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, 35 entreprises sur les 40 du CAC 40 qui sont présentes d'une manière ou d'une autre là-bas. Quelle est votre réaction à ce que vient de dire dans cette enquête très intéressante Éric Revel? Alexis Poulain.
C'est sûr que la France, depuis le début, a une stratégie de partenariat avec la Russie, du moins économiquement. Hein, mais les entreprises du CAC 40 sont des multinationales présentes en Amérique du Sud, en Russie, en Chine également. Mmh. Donc, on voit bien que ces sanctions, elles ne sont pas que contre la Russie, elles vont être contre l'économie européenne, mondiale. Ceux qui vont le mieux s'en tirer, c'est évidemment les Américains qui vont pouvoir vendre leur gaz de schiste qui était en perte de vitesse, qui coûte extrêmement cher, qui vont pouvoir aussi shifter sur un marché énorme, hein, qui était le marché russe, en disant bah, maintenant, il y a d'autres marchés, c'est le marché américain et éventuellement le marché européen. Donc, on est en train de faire des sanctions qui vont être dangereuses, difficiles, à la fois pour les populations qui n'ont rien à voir dans le choix de Vladimir Poutine de faire cette guerre en Ukraine, et également les Français, les Européens qui se tirent une balle dans le pied avec ces sanctions. Demain, ouais, apparemment, deux nouvelles sanctions vont être imposées à la Russie, mais je pense qu'on ne se rend pas compte du danger, à la fois alimentaire, à la fois économique, énergétique, évidemment, parce que le temps de changer de fournisseur, le temps de réorienter l'économie européenne, comme le dit Emmanuel Macron, eh bien, c'est pas une affaire de quelques semaines, c'est pas une affaire de quelques mois, c'est une affaire de quelques années. Et entre-temps, eh bien, se profile une crise économique, financière et alimentaire majeure. Donc, il serait peut-être temps d'arrêter cette guerre, d'arrêter les frais aussi, et de comprendre que le nouvel ordre mondial annoncé par Joe Biden n'est peut-être pas en notre faveur.
Oui, mais pour l'arrêter, cette guerre, c'est Vladimir Poutine qui l'amène, cette guerre, mon cher Alexis Poulain. Donc,
mais la diplomatie est toujours à la manœuvre. Emmanuel Macron a encore parlé à Vladimir Poutine hier pendant plus d'une heure. Zelensky parle devant le Parlement aujourd'hui. L'idée, c'est bien sûr de mettre la pression maximale sur Vladimir Poutine pour qu'il arrête l'opération en Ukraine, mais on doit faire que la diplomatie s'engage et pas une escalade à la fois sur les sanctions et à la fois aussi sur le terrain militaire, puisqu'on parle maintenant de frappe tactique, d'engagement des Européens et de l'OTAN. Enfin, voilà, ça deviendrait une guerre mondiale.
Oui, Elisabeth Lévy avant Éric Revel de nouveau, et puis vous, hein, 0826 300 300.
En grande partie d'accord avec Alexis, à l'exception de l'emploi du mot shifter, excusez-moi, ça m'étonne de vous, vocabulaire très McKinsey, cher Alexis.
Je lis trop Jean Covici, vous savez.
Cher Alexis, projet. M'étonne non, dans votre bouche. Alors, je pense qu'on apprendra évidemment plus tard qu'est-ce qui s'est joué, comment ça s'est joué, qui a poussé à quoi, parce qu'évidemment, dans ces affaires-là, si vous voulez, quand on me dit on fait la guerre pour des valeurs, si vous voulez, j'ai beaucoup de mal à croire qu'on fasse la guerre pour des valeurs. En réalité, il y a évidemment dans les politiques des intérêts derrière, et c'est normal que le président américain défende les intérêts du peuple américain d'une certaine façon. Ça devrait quand même, tout ce que vous venez de dire et la passionnante chronique d'Éric, où il y avait beaucoup d'informations, merci Éric, devrait tout de même faire réfléchir tous ceux qui s'agitent du matin au soir, si vous voulez, en nous expliquant qu'il faut boycotter les entreprises qui travailleraient encore en Russie. Essaye de boycotter Total, mon grand, ça va peut-être être compliqué de boycotter Total, parce que évidemment les gens ne savent pas quand ils achètent des produits qui ont été achetés par Total. Donc je trouve là ça relativise un peu les belles âmes. Maintenant, je pense que la position d'Emmanuel Macron, elle est assez compliquée, parce que d'un côté, il est le chef des sanctions, et d'un autre côté, il veut quand même être le médiateur. Alors, il a pas été aussi loin que Joe Biden, par exemple. Il se refuse à traiter Vladimir Poutine de criminel de guerre. Je ne suis pas en train de dire qu'il l'est pas. Je dis simplement que si on veut négocier avec lui, si on veut l'amener à la table de négociation, c'est pas le meilleur moyen de le faire. Donc, voilà.
Éric Revel.
Alors moi, oui. Alors d'abord, il y a neuf qu'on a oublié. Je le dis souvent cette formule, mais derrière l'horreur de la guerre et la monstruosité, il y a aussi tous les aspects business, notamment la reconstruction. Souvenez-vous de l'Irak, par exemple. Souvenez-vous de l'Irak. Les États-Unis ont bombardé l'Irak. Et qui a reconstruit l'Irak une fois que la guerre a été finie? C'est les entreprises américaines comme Halliburton.
Ouais, avec
donc,
des scandales,
évidemment. Bon. Mais juste sur le boycott ou sur le retrait des marques françaises de Russie, c'est un vrai sujet. Je vous disais Renault tout à l'heure. Renault, c'est la première marque en Russie avec son partenaire Avtovaz. Alors, ça vous dit peut-être rien, mais c'est Lada. C'est Lada. C'est Lada. Donc, les enjeux sont considérables. Et puis, il faut aussi le dire. En étant tout à fait honnête, il y a des marques qui prennent plus de risques que d'autres. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans le luxe, vous êtes le leader mondial incontournable avec des marques mondiales incontournables, que vous partiez momentanément et que vous reveniez, c'est pas ça qui va porter au moins de votre business.
Ouais.
En revanche, si vous êtes Renault, ou si vous êtes Decathlon, ou si vous êtes le roi Merlin, et que vous quittez le marché russe, là, vous n'avez pas une marque suffisante, et donc vous avez des concurrents qui vont venir.
Ouais.
Donc,
ok, avec c'est super. Avec des grosses infrastructures,
bien
derrière,
sûr. En plus, ok, c'est super cynique de parler de tout ça, Patrick, parce qu'on est encore dans l'horreur de la guerre.
Ouais.
Mais derrière, tout le monde le sait. Comme on sait que si vous êtes membre de l'OTAN, c'est parce que vous achetez du matériel militaire américain, que vous faites marcher l'arsenal militaire américain et cette machine à cash. Donc derrière toutes ces horreurs et dont les civils pâtissent au quotidien à Mariupol ou à Odessa, il y a aussi cet aspect qu'il ne faut jamais oublier, c'est que derrière, et le bras de fer est commencé, il y a des enjeux économiques très importants pour chacun de ces pays.
Ouais. Un mot justement sur ce que l'on peut attendre de l'intervention en vidéo cet après-midi du président ukrainien Zelensky devant l'Assemblée nationale et le Sénat.
Comme il a tendance à cibler et à chaque fois qu'il
s'adresse à un pays,
Knesset, il a parlé de la décision, de la solution quasiment finale que les Russes emploieraient en Ukraine, je pense qu'il va faire vibrer le couplet résistant chez nous en disant vous avez été des grands résistants, vous allez encore l'être. Voilà. Bon, même s'il y a eu des résistants de la dernière heure à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, c'est ça. Alexis,
à mon avis, pardon, un mot.
Oui, Elisabeth. Non,
le problème, je trouve souvent, je crois qu'on a déjà parlé de son discours à la Knesset, qui, à mon avis, était doublement fautif. Mais le problème, c'est qu'il joue maintenant beaucoup la fibre de la culpabilisation.
Ouais.
C'est-à-dire, en gros, alors il va pas jusqu'à dire que c'est de notre faute, mais quand même qu'on n'en fait pas assez, qu'on n'est pas...
Il y a une part de responsabilité parce qu'on ne vient pas suffisamment en aide au peuple ukrainien. C'est ça.
Je pense qu'il va parler des nouvelles sanctions. Enfin, les dernières allocutions sont vraiment de dire qu'il faut annuler la Russie, tous les échanges commerciaux. Enfin, il faut vraiment faire en sorte que la Russie soit écrasée économiquement. C'est sans doute ce qu'il va faire. Et je suis d'accord avec Eric, il va sans doute faire appel à l'esprit de l'appel du 18 juin en disant, vous avez eu de Gaulle, la résistance, c'est important, pays de la Déclaration des droits de l'homme et des libertés aussi. Je pense que c'est ce qu'il y a à attendre. Mais c'est assez étonnant, en fait, de voir cette campagne mondiale de Zelensky pour demander de l'aide, finalement se montrer comme le fer de lance du monde occidental contre une Russie prédatrice. Il fait le tour comme ça de tous les parlements, mais au final, les Ukrainiens restent seuls face à l'invasion russe sur le territoire et la guerre continue de faire des victimes et s'intensifie.
Merci. Allez, dans un instant, vous voulez réagir sur l'actualité. Zelensky, justement, qui sera face au Parlement français pour appeler à plus de soutien. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est utile ? Ça ne l'est pas ? J'aimerais vous entendre. Et puis, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. D'une part, sur le duel Marine Le Pen...
Éric Zemmour,
oui. Là, quand on pose la question, est-ce que Marine Le Pen a creusé l'écart avec Éric Zemmour ?
Bien, vous dites non à 62%.
Non à 62%. Ouais, je pense qu'il y a des troupes là, qui votent en masse pour ça. mais je ne sais pas. Bon, après, c'est vrai.
Grosse communication du côté
de Zemmour. En même temps, rien n'est fait puisqu'il reste quand même
deux semaines et demie.
Non, mais c'est vrai. Et donc, il peut y avoir en fait
Christian
des choses.
Christiane Taubira n'aura pas ses 500 signatures. Donc
on attend l'appel.
On va l'appeler. vous voulez réagir aussi. Et puis, sur la proposition du ministère de l'immigration, 0826-300-300. Et puis, restez là aussi à 9h30. On va parler des classes moyennes.
Ouais.
Enquête très intéressante sur des années sur les classes moyennes.
Restez avec nous, il est 9h18.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h21, on va y arriver. Oui. Le grand débat du matin, ce matin, avec Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Eric Revel et vos appels 0826-300-300. On va commencer par l'appel d'Annie qui nous appelle de Le Pontet, dans le Vaucluse, je crois. Annie, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour,
c'est bien dans le Vaucluse.
Oui,
oui, tout à fait, dans le Vaucluse.
On dit Dupontet, non
Dupontet, ça doit s'entendre.
Bah oui.
Voilà.
Alors Annie, qu'est-ce qui vous fait réagir?
Écoutez, moi je réagis, je vais pousser un petit coup de gueule parce que je suis très en colère, parce que Marine Le Pen bénéficie clairement de l'appui des médias qui veulent la porter au second tour.
Ah bon, vous croyez?
J'en suis convaincue, en sachant qu'elle ne gagnera jamais. Et en plus, elle a fait un virage, pour moi, sincèrement, à 360 degrés à gauche. Elle envisage même de nommer Montebourg dans son ministère, si c'est vrai. Elle ratisse large.
Ouais.
Et ensuite, je pense sincèrement, que les instituts de sondage jouent le jeu pro-Macron. Et franchement, je suis loin d'être complotiste. Franchement, je trouve que c'est l'écart est abyssal.
Entre Zemmour et Marine Le Pen, par exemple, entre Marine Le Pen et Macron, et enfin tous les candidats et Macron, quoi, peut-être.
Non, surtout entre actuellement, l'opinion nouée de ce matin, par exemple, Marine Le Pen 18, Zemmour 10. Je n'y crois absolument pas. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de votes cachés. Je le vois autour de moi, les gens qui ne le disent pas.
Alors, ça c'est autre chose, hein, parce que s'il y a des votes cachés, les sondages, les sondeurs ne peuvent pas les mettre, quoi. Si les gens, voyez, mais pour répondre à votre question, Annie, puis je vais vous laisser développer. Je ne pense pas qu'il y ait véritablement un jeu, en tout cas, de tous les médias pour Marine Le Pen.
Malheureusement, la bien-pensance et les médias sont malgré tout majoritaires. Et parce que sincèrement, Zemmour, il est maltraité, discrédité, censuré par l'ensemble des médias pro-Macron, et ils sont malheureusement majoritaires. C'est ce que je vois. Et j'en suis vraiment désolée, parce que je trouve qu'il n'y a plus de justice à ce niveau-là, quoi. Il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de justice, et je suis très en colère.
Mais il n'est pas quand même complètement censuré, parce qu'il a eu la parole sur tous les médias. Il a même eu des temps de parole à la fin de l'automne et début de l'hiver assez conséquents.
Et pourquoi? Parce qu'il fait une audience que ne fait personne. Mais sincèrement, ces sondages, en plus, je trouve que c'est assez opaque. Je ne sais pas comment ils procèdent, je ne sais pas quelles sont les personnes qui votent. Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et moi, je parle, si vous voulez, par rapport à ce que je vis au quotidien, par rapport à ce que je vois et ce que j'entends. C'est mon ressenti, en fait.
C'est vrai. Non, mais c'est intéressant. Alors, juste avant de donner la parole à Elisabeth Lévy, vous savez bien, c'est la plus bavarde du groupe.
Elisabeth, je la suis parce qu'au moins, elle est honnête.
Dit les choses, hein. Elle dit les choses.
Et toc.
Non, je voulais vous préciser une chose par rapport, parce qu'on a le sondage IFOP fiducial avec Sud Radio et LCI et Paris Match tous les jours. Donc du coup, c'est différent parce que tous les jours, il y a des gens il y a un grand panel et des gens qui sont interrogés. Et il correspond un petit peu plus à la réalité. Alors, il n'y a pas forcément des grands mouvements comme sur d'autres. Bon, là, si je prends, donc, je vais vous le redonner. Hein, il est tombé hier après-midi, tous les après-midi avec Philippe David et l'ensemble des Vraies Voix. Il le commande d'ailleurs à 17h. Emmanuel Macron est à 28. Il avait baissé par rapport au week-end dernier. Et c'est vrai que Marine Le Pen a regagné. Ces derniers jours, elle est à 19,5. Éric Zemmour, dans ce sondage, est à 12,5. Il reste au même niveau. C'est Valérie Pécresse qui a quand même baissé depuis quelques jours et qui est, même si elle est stable là ce matin, mais elle est à 10,5. Et dans le même temps, il y a Jean-Luc Mélenchon qui n'arrête pas quand même de monter. Il est à 13,5 ce matin. Donc, c'est intéressant et de voir ensuite, c'est Yannick Jadot à 5,5. Anne Hidalgo est à 2. Elle est toujours devancée par Jean Lassalle. Bon. Elisabeth Lévy.
Bonjour.
Bonjour,
non, je dirais deux choses. La première, si vous voulez, je ne crois pas du tout qu'il y ait une volonté des instituts de sondage. Il y a une véritable difficulté à mesurer les intentions de vote quand beaucoup de gens n'ont pas décidé, quand il y a beaucoup d'abstention. Mais l'un des intérêts du premier tour, ce sera évidemment, tout le monde se demande si on va avoir des surprises. Et ça, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, les sondeurs disent eux-mêmes, si vous voulez, qu'ils ont beaucoup de paramètres incertain. La deuxième chose, si vous voulez, moi je suis assez frappée aussi par, je ne sais pas si les médias sont tous massivement pro-Macron, je dirais quand même, il y a quand même une tendance, oui.
Ah oui, tout à fait.
Il y a beaucoup de médias. Non, mais ce qui me frappe, moi, et ce qui m'a beaucoup frappé, si, dans n'importe quel pays, si vous voulez, en tous les cas, aux États-Unis, la conférence de presse d'Emmanuel Macron la semaine dernière aurait provoqué un scandale. Si vous voulez, il a choisi les questions. Il est interrogé, si vous voulez, comme s'il était interrogé en tant que président, alors que ça se passait pas à l'Élysée, c'était bien le candidat. Oui. Il est pas du tout interrogé comme les autres. C'est-à-dire que les autres leur coupent la parole, pas que Zemmour, franchement. Zemmour, il a eu aussi beaucoup de place dans les médias, mais on leur coupe la parole, on les enquiquine, on leur rappelle leurs trucs passés. Ouais. Mais Emmanuel Macron, il se balade en majesté dans cet exercice. Franchement, j'étais horrifié moi aussi.
Oui, en fait, moi, je ne comprends pas de la part des médias, et ça, franchement, avec toutes les affaires qu'ils traînent, Macron, Alstom, McKinsey, tout son gouvernement, une grande partie mis en examen, qui traîne des casseroles, et personne n'en parle. Personne n'en parle, ça passe crème. Donc, sincèrement,
attendez, on n'arrête pas d'en parler.
Oui, vous peut-être, mais sincèrement, c'est vraiment une minorité. Mais ça, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Et non, ça n'apparaît pas. Fillon, il est tombé pour bien peu de choses comparé à ça.
Ah, costume, oui. Costume,
voilà, donc, voilà, les costumes de Fillon.
Oui, et
donc,
puis, voilà, pas que ça aussi. Bon,
voilà, et le travail de Pénélope.
Oui, Pénélope.
Voilà, et après, quand vous demandez aux personnes s'ils vont revoter Macron, une grande majorité dit non, les gens en parlent très mal. Ouais. Donc, si vous voulez, la réalité du quotidien ne reflète absolument pas ce que l'on entend sur les plateaux et ce que l'on entend dans les instituts de sondage. Ouais. C'est mon ressenti, c'est pour ça que je voulais pousser un petit coup de gueule ce matin.
Non, mais vous avez raison, le 0826-300-300 est fait pour ça, pour vous entendre. Éric Revel, un commentaire.
Oui, alors c'était juste un petit peu décalé, mais je pensais à François Hollande qui allait soutenir Anne Hidalgo à Limoges, je crois que c'est aujourd'hui.
C'était hier.
J'avais une pensée pour lui, parce que je me disais inconsciemment, l'ancien chef de l'État doit culpabiliser, parce que c'est lui qui a mis le PS dans cet état-là, et venir au secours d'Anne Hidalgo qui fait 2 points, et je le dis à chaque fois, ça fait sourire, qui est bientôt rattrapé par le taux du livret, il prend un risque politique de folie, François Hollande, c'est-à-dire qu'il va soutenir Anne Hidalgo parce qu'il culpabilise tellement d'avoir effondré le Parti Socialiste après son quinquennat loupé, que c'est plus... C'est le dernier des Mohicans. En général, on dit éléphant pour les pour le PS.
Et s'il y avait une surprise, Anne Hidalgo,
grâce à François Hollande, elle va faire 19 points dans les sondages.
Non, mais si elle était sous-estimée, c'est
une catastrophe.
Non, vous ne croyez pas? J'y crois pas un instant. Parce qu'il y a quand même des troupes socialistes sur le terrain.
Oui, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon est en train de siphonner beaucoup de candidats socialistes. Beaucoup de candidats de gauche, bien sûr.
Et
regardez Jadot aussi.
Bon, merci à vous Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Éric Revel, vous Annie, et vous étiez d'autres à nous appeler au 0826-300-300, vous aurez la parole. Vous pouvez d'ailleurs continuer de vous exprimer. Par exemple, les classes moyennes. C'est qui et c'est quoi les classes moyennes?
Ça concerne qui?
Eh bien, on va voir ça avec un livre de quelqu'un qui étudie depuis des années le comportement des Français. C'est Maurice Lévy, il sera avec nous dans un instant. Grand patron,
évidemment. Publicis.
Non, Publicis, du conseil de surveillance maintenant, du groupe Publicis, mais enfin bon, voilà. Donc,
il est très clair dans ses propos, son livre s'appelle « Ouvrez les yeux », en gros, Fayard.
Il est très clair, ouvrez les yeux.
Voilà, c'est ça.
Et en pleine forme encore, Cécile de Ménibus, quoi. On n'a pas l'impression qu'elle n'a endormi que 2-3 heures.
Ça ne va pas durer longtemps, profitez-en, parce qu'à 10 heures, il n'y a plus personne. Restez avec nous.
Je dois vous dire, elle n'a dormi que quelques heures, Cécile.
Oui, à cause de vous, Patrick Roger.
Oui, c'est vrai.
Absolument. Je vous en remercie.
Oui. Non, mais on ne va pas rentrer dans notre vie privée.
On laisse planer le doute.
J'espère que vos familles ne sont pas à l'écoute.
Si, et on les embrasse, parce qu'ils sont ensemble. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant, tout de suite.